nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 2015, la Chine caracolait toujours allègrement en tête du sinistre classement des pays ayant mis à mort le plus grand nombre de condamnés. Depuis 2009, Amnesty International a renoncé à publier le nombre des exécutions en Chine, où les chiffres concernant la peine de mort relèvent du secret d'État. On estime cependant que les exécutions s'y compteraient probablement par milliers chaque année. En dehors de la Chine, Amnesty International a recensé 1630 exécutions en 2015, 89% d'entre elles pratiquées par l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Pakistan. Pour se convaincre qu'en la matière on doit être optimiste, on notera que si l'on compte encore 58 États non abolitionnistes, plus des deux tiers des pays du monde ont maintenant aboli la peine de mort, en droit ou en pratique. En février 1980, Laure Adler consacrait une nuit magnétique à la peine de mort. Dans notre pays, la dernière exécution remontait alors au 10 septembre 1977 et il n'y en eut pas d'autre. Robert Badinter avait sauvé la tête de Patrick Henry et, porté par lui, adopté par l'Assemblée nationale le 18 septembre 1981, la loi abolissant la peine de mort en France fut promulguée le 10 octobre 1981.
Bonsoir. Ce soir, en direct avec nous, Philippe Boucher, Thierry Lévy, Jacques Delarue.
Sur 48 000 jurés qui ont été désignés par le sort ces quatre dernières années, il y en a eu seulement à peine 7 jurys de 12 membres qui ont retenu la mort en 4 ans. Par conséquent, le Français ne veut plus condamner à mort quand c'est lui qui doit condamner à mort.
Il n'est pas possible, sans accepter de sacrifier des victimes supplémentaires, de décider d'abolir la peine de mort. On a eu des exemples de récidives criminelles qui sont vraiment démonstratifs de ce qu'il y a certains êtres qui ne peuvent pas ne pas s'abandonner à des actes de cette nature.
À l'heure actuelle, en France, on coupe 3 têtes tous les 5 ans. Ça n'a aucun intérêt. D'abord, sur les 3, il y en a une dont on dit que c'est celle d'un innocent, la tête de Ranucci, je n'en sais rien, je n'ai pas encore formé mon opinion. Mais enfin, il est exact qu'il y a eu en France des erreurs judiciaires absolument tragiques. On en connaît un curé qui a été cité à la tribune dans un précédent débat, le boulanger d'Aix-en-Provence. Ce n'est pas une peine de notre époque.
Il faut que l'on choisisse. Ou bien l'on décide qu'il faut à tout prix sauver les assassins et l'on accepte de sacrifier quelques victimes de plus, ou l'on décide qu'il faut laisser aux jurés le soin de décider en leur âme et conscience de ceux qu'ils considèrent comme ne pouvant pas être maintenus dans notre société. Et à ce moment-là, on doit sacrifier quelques assassins et par là même sauver un certain nombre de victimes.
L'heure n'a pas sonné d'abolir définitivement la peine de mort en France, avait dit Fernand Laborie, l'avocat Dreyfus, lors du dernier grand débat parlementaire à ce sujet en 1908. 70 ans plus tard, le moment n'est pas encore venu. Dès 1791, la France faillit s'honorer d'être le premier pays du monde à abolir la peine de mort. Le pelletier de Saint-Fargeau, qui avait défendu ce projet, fut battu d'un souffle à l'Assemblée législative. Échec encore en 1848, en dépit d'une fulgurante intervention de Victor Hugo, qui avait qualifié la peine de mort de signe spécial et éternel de la barbarie. Troisième République, troisième tentative, celle de 1908, troisième échec. Pourtant, à l'époque, le ministre de la Justice, Aristide Briand, comme le président de la République, était abolitionniste. La France, depuis 2 ans, a pratiquement renoncé aux exécutions. Depuis le 18 décembre 1977, aucune condamnation à mort n'a été prononcée. De 1968 à 1977, la peine de mort a été prononcée 38 fois sur 2000 affaires criminelles où l'on pouvait la craindre. La dernière exécution a eu lieu en France le 10 septembre 1977. Et depuis octobre 1979, il n'y a plus de condamnés à mort dans les prisons françaises. Jacques Delarue, le métier de bourreau du Moyen-Âge à aujourd'hui. Thierry Lévy, l'animal judiciaire, les écrits et la mort de Claude Buffet, ainsi que le désir de punir, essai sur le privilège pénal. Philippe Boucher, le ghetto judiciaire. La peine de mort, Marcel Normand. Rapport international d'Amnesty International sur la peine de mort. Beaucoup de livres sur la peine de mort. Et parmi ceux qui, en ce moment, assistent aux exécutions, il y a les prêtres. L'abbé Masson fut le témoin de multiples exécutions.
J'ai accompagné 80 condamnés à mort au poteau d'exécution, soit condamnés par les cours martiales ou par les tribunaux populaires au temps de la libération. Alors, je tiens à le dire, et vous pouvez l'enregistrer, que parler de la peine de mort sans avoir eu un contact avec la réalité, c'est du vent. Et que l'on hésite toujours à en parler parce qu'on sait qu'on ne sera pas compris. Rien ne vaut l'existentiel.
Et vous, comment pouvez-vous en parler?
Moi, je puis en parler parce que j'ai passé des nuits avec des condamnés à mort. Et je connais un peu ce que ça veut dire être tué par ses semblables. Je n'exclus pas du tout l'horreur d'un meurtre. Mais je dis que celui qui commet un meurtre est dans la plupart des cas mobilisé par la peur ou par la folie ou surtout par les passions. Tandis que celui qui est condamné à mort, celui qui condamne les autres à mort, est dans un état de préméditation. Et la loi condamne cette préméditation. Préméditation est, je dirais, c'est un acte vraiment volontaire, calculé, décidé. Et c'est ça qui, pour moi, est extrêmement important.
Et est-ce que ces personnes qui étaient condamnées à mort et que vous avez suivies jusqu'au dernier moment croyaient vraiment qu'on allait les tuer, qu'elles allaient cesser de vivre?
C'est-à-dire que... Et vous avez tous les cas possibles, comprenez-vous. Il y en a certains qui étaient vraiment, je dirais, opprimés par cette réalité qu'ils percevaient, bien sûr. Et puis d'autres faisaient face d'une manière plus solide. Néanmoins, on peut dire que une nuit passée avec un condamné à mort voit en général tous les états. C'est la balance du haut et du bas. Mais j'en ai connu d'autres condamnés qui sont restés durant longtemps. Un particulier, un luxembourgeois, qui a été condamné aux environs de la Toussaint, a été exécuté le 1er mai. Il était paralysé et il est resté durant tout l'hiver dans une cellule glacée, étendu sur une paillasse qui, en guise de paille, était de la terre, de la poussière. Il ne pouvait même pas se lever pour aller chercher sa gamelle. Et il a été exécuté assis sur une chaise. Alors, ceux qui sont partisans de la peine de mort, je voudrais bien qu'ils approchent des cas semblables et ils comprendraient ce que c'est que la méchanceté et la vengeance humaine. Et surtout cette vengeance calculée par rapport d'ailleurs à un acte dont ils ne mesurent pas l'ampleur. Et c'est sans doute là peut-être un peu leur excuse. Mais au niveau d'un juge, d'un magistrat, il doit être conscient de ce que cela est. Je n'ai jamais vu des magistrats venir vraiment vivre dans la cellule d'un condamné à mort.
Du temps avant 1939, où l'on pouvait assister à une exécution publique, Frédéric Potcher, alors jeune reporter, dut couvrir, en jargon du métier, pour son journal, un tel événement. Voici ses impressions.
Alors, je suis contre la peine de mort depuis que j'ai assisté en 1938, vous voyez que c'est pas d'hier, à une exécution capitale. Je ne savais pas ce que c'était, je n'en avais pas la moindre idée, et puis un soir... J'étais tout jeune reporter à Paris Soir et Lazareff m'a téléphoné en me disant, c'était sa formule, Coco, tu prends une bagnole, on t'envoie à Rouen, tu vas assister à une exécution. Alors on m'a remis, le chauffeur de la voiture m'a remis une espèce de carton très élégant, comme les cartons qu'on fait pour une invitation à dîner chez des gens chics, et ce carton portait imprimé une indication conseillant au service d'ordre de me laisser passer tel jour à telle heure. C'est tout. Mais c'est transparent, hein. Alors je suis arrivé à Rouen, il était 5 heures du matin. Sur une grande place, il y avait environ une cinquantaine de personnes comme moi, de journalistes, qui avaient eux aussi reçu des cartons, car à l'époque on recevait des cartons pour aller assister à une exécution. Vous voyez comme c'était beau. Il y avait une quarantaine de gars comme moi qui tournaient sur cette place. Et puis dans un coin, il y avait un petit truc, un petit objet, c'était la guillotine. Alors je me suis approché, comme tout le monde, de l'instrument en question, et où il y avait un homme qui s'agitait tout autour, un homme fort aimable, c'était le bourreau. C'est un homme très bien, tout à fait aimable, qui a été très, très urbain, si j'ose dire, qui nous a montré comment fonctionnait sa machine. Alors il a mis du savon dans les glissières, il est allé chercher de la sciure pour la mettre dans le panier, il a ajusté le panier, il a bien vérifié que la planche était bien glissante et qu'elle était juste comme il fallait qu'elle soit. Et nous avons attendu. Et nous avons attendu, évidemment, que l'heure du lever du soleil soit arrivée. Car on ne pouvait pas exécuter un homme, on ne sait pas pourquoi, avant l'heure du lever du soleil. Ce sont des choses bizarres, mais c'est comme ça. Et puis, au bout d'un moment, nous avons entendu un bruit de porte et de serrure. C'était la porte de la prison. Il y a une prison, on exécutait à cet endroit-là, parce qu'il y a une prison dont la sortie s'effectue sur cette place. C'est pour ça que c'était là. Et la guillotine était à une quinzaine de mètres de la sortie, près de la porte, une grande porte double. Alors, nous avons vu arriver un petit cortège, le cortège sinistre habituel, où il y a le procureur, où il y a l'avocat, où il y a le médecin légiste, où il y a le directeur de la prison, où il y a le procureur de la République en chef, toutes sortes de gens qui étaient là, et nous avons vu arriver ce malheureux garçon. Je dis malheureux parce qu'il était tout jeune, il avait à peine 18 ans. Il avait la majorité judiciaire, car vous savez que la majorité judiciaire, c'est 18 ans, depuis toujours. Alors on a vu arriver ce garçon qui était entravé, enchaîné, les pieds, les mains. Alors on le poussait comme ça, alors il se tortillait pour avancer. Et nous avons appris à ce moment-là qu'il avait accepté le verre de rhum, car ça existe, c'est pas une blague, ça existe. La cigarette, ça existe aussi. Le prêtre qui vient, pour le cas où vous auriez besoin de lui, de son secours, il avait accepté le prêtre, il n'avait pas accepté la cigarette, il avait accepté le rhum et il avait accepté de signer. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument savoir, car vous savez que quand un homme va être exécuté, on lui fait signer sa levée d'écrou. Autrement dit, le condamné à mort libère l'administration pénitentiaire de sa propre personne. C'est comme s'il était libéré, voyez-vous, c'est exactement la même chose. Alors il a signé sa levée d'écrou, et puis après ça, on lui a dit d'avoir du courage, et puis il est venu se faire couper la tête, gentiment, si j'ose dire. C'était affreux. Je ne peux pas vous dire, c'est un souvenir que je ne pourrai jamais de ma vie oublier. Et j'entends encore, quand je vous parle là en ce moment, j'entends le bruit de cette mécanique qui tombe. Vous savez, c'est un couperet qui pèse 40 kilos. Et ça tombe dans les glissières, comme ça. Ça fait un certain bruit. Évidemment, le caractère du drame, si vous voulez, qui s'attache à ce bruit, lui donne une espèce d'apparence particulière, lui donne une transfiguration. C'est affreux, affreux, affreux. Et il y avait devant nous des cordons de garde mobile, des gens qui empêchaient la foule d'avancer. Et moi, j'ai vu un garde mobile s'effondrer. Pourtant, c'était des durs, hein, et des gens qui étaient puissants. C'était tous des colosses, ces gens-là. Eh bien, il y en a un qui est tombé devant nous. Alors, on nous avait refoulé derrière le rideau de garde, et nous avons tout de même un tout petit peu vu. Je n'ai pas vu la tête de ce garçon. Je sais qu'il avait tué deux personnes, il avait mis le feu à une ferme. Oh, ce n'était pas un enfant de cœur, hein. Mais enfin, je n'ai pas vu sa tête, mais j'ai des camarades qui l'ont vu. Alors après, il y a le sang qu'on balaye, il y a les seaux d'eau qu'on jette sur le tout ça. Enfin, tout ça, vous comprenez, c'est affreux. C'est tellement affreux qu'on n'ose plus guillotiner les gens en public. Alors, il y a eu un décret qui est paru et qui a été pris par Daladier. Moi, j'ai une certaine reconnaissance à l'égard de M. Édouard Daladier, dont on se moquait beaucoup jadis. Mais c'est lui, c'était un homme de cœur. Et lorsqu'on a exécuté Weidmann, qui était un assassin épouvantable, un type qui avait tué 6 personnes, et surtout des femmes, près de Versailles, il a été exécuté à Versailles, en public encore une fois, cette exécution a été tellement abominable. Hein. Il y a des femmes élégantes qui sont venues, qui ont trempé leur mouchoir dans le sang du condamné. Mais des trucs horribles, vous savez. Et tout ça, c'est vrai, ce n'est pas une blague. Il y a d'ailleurs un livre de Mme Jardin, qui était une avocate de Deschmann, qui raconte tout ça. Et moi, j'ai vu ça. Je n'ai pas vu l'exécution parce que J'étais sur le toit avec Renaudon, qui était chef du service photo, mais nous avons pris des photos avec des appareils spéciaux. Et on voit les femmes, les femmes du monde, hein, venir assister à ça comme à une fête. C'était abominable, vous comprenez. Et Daladier a été tellement scandalisé. Il était président du gouvernement. Il était tellement scandalisé par les photos qu'on lui a montrées qu'il a dit « Ah non, maintenant c'est fini. Quand on exécutera les gens, ce sera à l'intérieur des prisons. » Et c'est pour ça que, depuis Weidmann, on n'exécute plus à bureau ouvert, si j'ose dire, mais à bureau fermé.
Jacques Delarue, dans votre livre sur le métier de bourreau, vous parlez bien évidemment de cette exécution d'Eugène Weidmann le 17 juin 1939 à 4h30 du matin, très exactement. Et vous avez un avis opposé à celui de Frédéric Potcher, car vous dites que les histoires de dames trempant leurs mouchoirs dans le sang, tout ça, ce sont des histoires à sensations qui n'ont jamais existé.
Absolument. Vous savez, c'est très simple quand il y a des incidents lors d'une exécution, quand il y avait des incidents lors d'une exécution, le commissaire de police du quartier, qui bien évidemment assistait à l'exécution, a été responsable de l'ordre public, puisque c'est lui qui devait fournir le cordon de gardien de la paix encadrant la machine et l'endroit, l'emplacement de l'exécution. Ce commissaire de police faisait obligatoirement un rapport pour expliquer ce qui s'était passé. J'ai donc recherché ce rapport. J'ai constaté qu'il n'y en avait pas. J'ai alors recherché les photographies, c'était très simple, elles ont été publiées. Il y en a toute une série qui appartiennent à l'agence Keystone, il y en a qui ont été publiées par Paris Match, et il suffit de regarder ces photographies pour constater qu'il n'y a pas une seule femme dans l'assistance qui se trouve massée à distance normale devant la place de la porte de la prison Saint-Pierre à Versailles. En réalité, voilà ce qui s'est passé.
Frédéric Potcher, à qui j'ai téléphoné avant de diffuser cet enregistrement, m'a dit qu'il avait lui-même pris des photos et que toutes n'avaient pu être publiées car elles étaient, pour reprendre son propre terme, impubliables. Et que c'était ces photos-là qui avaient décidé que désormais aucune exécution ne se passerait en public.
Écoutez, depuis de longues années, très exactement depuis 1906, on cherchait à supprimer la publicité des exécutions. Et il y a toute une série d'articles qui ont paru entre 1905 et 1910 qui annonçaient périodiquement que désormais, c'était fini, les exécutions auraient lieu à l'intérieur des prisons. Et ce qui s'est passé pour l'exécution de Weidmann est extrêmement simple. Il faut connaître un peu Versailles. La prison Saint-Pierre se trouve à côté du palais de justice dans un renfoncement qui est bordé sur le côté par un immeuble en avancée. Cet immeuble a, sur la partie qui jouxte la porte de la prison, des fenêtres. Il y a un café et un tabac au rez-de-chaussée. Bien. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, des journalistes, des photographes de presse très exactement, ont pu accéder dans les étages et s'installer confortablement aux fenêtres qui donnent directement, perpendiculairement, sur la porte de la prison, c'est-à-dire sur la guillotine, puisqu'elle était installée là. Par-dessus le marché, c'était au mois de juin, on venait de changer l'heure, et il y a eu un mélange effroyable fait par les autorités entre l'heure solaire et l'heure légale. Si bien que l'exécution a eu lieu au grand jour, alors qu'il y avait déjà un soleil éclatant, et c'est pourquoi les photos sont excellentes. Ces photos ont paru un peu partout dans le monde, c'est très facile, je les tiens à votre disposition. Elles sont prises au moment précis où on pousse Weidmann sur la planche. On peut constater que dans les premiers rangs, qui sont d'ailleurs limités par des barrières et avec une chaîne de gardiens de la paix ininterrompue, il n'y a pas une dame. Et il faut ajouter qu'en 1938, Versailles, c'était loin, c'était la province. Que si on voulait être à Versailles à 4h du matin, il fallait partir à minuit ou à minuit et demi ou à 1h moins le quart, dernier train partant de Montparnasse, et passer la nuit debout à Versailles.
Bon,
vrai que des dames avaient assisté au procès, mais elles n'étaient pas allées jusqu'à assister à l'exécution.
En fait, Philippe Boucher...
Personne ne s'était dérangé. Moi, je tiens les photos à votre disposition. En réalité, on a saisi l'occasion des photographies, la publication de ces photos, comme on avait déjà failli le faire en 1909 pour la série des photographies de l'exécution, de la triple exécution des chauffeurs de la Drôme à Valence en septembre 1909. Et cette fois, on a enfin pris la mesure qui était en discussion depuis 30 ans. Plus de 30 ans.
En fait, dame ou pas dame, mouchoir de sang ou pas mouchoir de sang,
absolument.
Le vrai problème, c'était qu'à partir de ce 17 juin 1939, voilà. L'exécution capitale n'a pu être publique.
Elle a eu lieu désormais à l'intérieur des prisons. C'était une première mesure qui en suivait bien d'autres, n'est-ce pas? Parce que dans le passé, on avait d'abord avancé progressivement l'ère des exécutions, qui dans le passé avait eu lieu ou à 4h de l'après-midi, ou à 5h de l'après-midi à Paris, ou à 10h du matin en province, sur la place centrale de la ville, le jour du marché, de façon à ce qu'il y ait une publicité aussi complète que possible. Mais comme cette publicité aboutissait toujours à des spectacles assez répugnants, et souvent même franchement scandaleux, on avait progressivement refoulé hors du centre de la ville, puis jusqu'aux barrières les plus lointaines, le lieu des exécutions, en même temps qu'on en avançait l'heure et qui se trouvait fixée finalement au point du jour, n'est-ce pas, à l'aube. Et ça n'avait pas suffi à décourager la clientèle très particulière qui se pressait à ces exécutions.
Très particulière.
Très particulière.
Je ne sais pas, car à vous lire, on est tout à fait troublé quand on lit les rapports qui ont été faits tout au long du 19e siècle et même du début du 20e siècle sur les exécutions capitales. Je cite, et cela ne va pas vous étonner car je l'ai trouvé dans votre livre, une citation notamment du très distingué Jean Lorrain qui disait à propos d'une exécution, de la descente de voiture au coup près, j'ai trouvé le rythme un peu trop rapide. Cela enlève au spectacle de la solennité. Et si je prends Jean Lorrain, on peut en prendre des dizaines d'autres. Ce n'était pas...
Oui, mais c'est l'époque, n'est-ce pas, où on fait la critique des exécutions comme une critique théâtrale. Mais j'ai donné quelque chose de beaucoup plus surprenant que ça. J'ai donné pour la première fois le texte d'un rapport fait par un fonctionnaire de la préfecture de police qui relate une conversation qu'il a eue avec un haut magistrat, lequel a été scandalisé de recevoir la visite de membres du cabinet du président de la République, qui était alors le maréchal de MacMahon, et qui sont venus pour demander des cartes, pour avoir des bonnes places pour une exécution. Et on les a refoulés, et ce magistrat, comme ce fonctionnaire de police, sont scandalisés de cette démarche, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était courant. Quand je dis que c'est un public très particulier, entendons-nous, je veux dire psychologiquement. Et ça ne signifie pas du tout une classification sociologique. Les gens qui aiment ça, on les trouve partout. Malheureusement, il y a des gens qui se réjouissent ou qui éprouvent un plaisir probablement particulier au spectacle abominable, au spectacle atroce.
Philippe Boucher.
Si je vous ai bien compris, vous n'êtes pas favorable à la peine de mort, en tout cas pas favorable à la guillotine.
Ou pas à la peine de mort pour une raison très simple, c'est que l'étude de 6 siècles de peine de mort dans son application au niveau le plus bas me démontre qu'elle est totalement inutile. Elle ne sert à rien.
Alors, dans ces conditions... Vous avez dit que lorsqu'elle avait lieu en plein jour de marché, etc., ça donnait lieu à des scènes scandaleuses. Bon. Est-ce qu'il n'est pas, parlons en termes de réel politique, est-ce qu'il ne serait pas de l'intérêt des abolitionnistes, surtout à l'époque où tout est diffusé, où tout est vu, tout est rapporté, est-ce qu'il ne serait pas de l'intérêt des abolitionnistes que ces scènes scandaleuses se reproduisent? Est-ce que ce n'est pas faire le jeu des partisans de la peine de mort que de la rendre tolérable puisqu'elle a lieu sans qu'elle choque qui que ce soit, puisque nous savons bien que vous avez des gens partisans de la peine de mort mais à qui la seule idée d'assister à une exécution, cette seule idée les dégoûterait. Oui, donc c'est un peu le jeu des coupeurs.
La peine de mort, c'est pour l'autoroute. C'est comme l'autoroute, n'est-ce pas? Tout le monde est pour, mais à condition que ça ait lieu chez le voisin. Mais pas, surtout pas chez soi. On veut l'autoroute, mais si elle passe chez le voisin, on veut la guillotine, mais pas devant sa fenêtre. Malheureusement, ce que vous dites est vrai. Ces mesures, qui d'ailleurs ne se sont pas arrêtées là, puisqu'à partir de 1954, on n'a même plus eu le droit de rendre compte d'une exécution autrement que par la publication du simple communiqué officiel, qui est vraiment quelque chose de pratiquement inexistant.
Il y a eu des condamnations,
atténuées en appel, mais tout de même maintenues. Maître Thierry Lévy connaît cette affaire mieux que quiconque, puisqu'il a été le défenseur d'un de ses condamnés, qui c'est à propos de l'affaire Buffet-Bontemps. On a l'impression, n'est-ce pas, que, c'est une impression d'ailleurs qui remonte à plusieurs siècles, que les partisans de la peine de mort, en même temps, en ont honte. Parce qu'ils sont bien obligés de constater que dans ces aspects définitifs, c'est-à-dire au moment de l'application, c'est pas du tout une peine moralisatrice. Absolument pas.
Thierry Lévy, j'ai lu votre livre « L'animal judiciaire, les écrits et la mort » de Claude Buffet. Vous racontez ce que fut l'histoire de Claude Buffet, mais vous ne racontez pas l'exécution à laquelle vous avez assisté. Votre livre se termine juste avant l'exécution. Pourquoi n'avez-vous pas eu envie de raconter, alors que d'autres ont raconté, que trois grands journaux ont raconté l'exécution, même s'il y a eu des condamnations, le récit a été fait. Et vous, vous n'avez pas voulu. Pourquoi ?
Je trouve que toutes ces controverses autour de la... du cérémonial de l'exécution, assez écœurante, finalement aussi écœurante que l'exécution, car la famille de la victime a bien le droit de dire que les conditions dans lesquelles elle a disparu n'étaient pas spécialement ragoûtantes. Et quand on se laisse aller sur ce terrain des formes, du spectacle et de la sensibilité dans ce qu'elle a de plus vulgaire, on prend le risque de se trouver en face de gens qui très légitimement, très loyalement, opposent leur propre souffrance, leur propre sensibilité aux arguments qu'on invoque en faveur de l'abolition. Donc, la question de l'abolition de la peine de mort est tout à fait indépendante des conditions dans lesquelles la peine est exécutée, que ce soit la guillotine, que ce soit la fusillade, que ce soit une piqûre réputée indolore, la question n'est pas là. Alors, ces récits autour des circonstances de l'exécution m'ont toujours paru, avant même que j'ai eu l'occasion d'y assister, si l'on peut dire, quelque chose de très inconvenant, très déplacé.
Ceci dit, votre livre commence. Philippe Boucher.
Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose que Robert Badinter ait raconté l'exécution. Je crois qu'il faut mettre les gens en face de ce qu'ils souhaitent. Vous avez à 200% raison en disant la méthode et le principe sont deux choses différentes. On ne rend pas une exécution capitale tolérable. Elle l'est, même si elle fait propre. Il n'empêche que si c'est sale, il faut mettre les gens en face de ce qui est sale.
Oui.
Moi, je préfère qu'on maintienne la guillotine. Je ne voudrais pas en plus que les partisans de la peine de mort aient la chance que ça ne choque pas trop leur petite sensibilité. C'est bien que ça choque leur sensibilité, qu'ils soient un peu tiraillés entre les deux. Donc si on leur raconte, très bien, aussi froidement qu'il est possible... mais c'est bien de le raconter, qu'il sache.
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais vous voyez, je suis entièrement de votre avis, maître Olivier, mais il y a un exemple bien précis dans l'histoire de cette tentative de rendre la peine de mort humaine. C'est la guillotine. Quand on a adopté la guillotine, c'était pour des raisons humanitaires, parce qu'effectivement, comparativement au supplice du passé, ça devenait quelque chose d'acceptable.
Oui,
c'était pour des raisons égalitaires.
Jacques Delarue, je vous interromps une seconde pour dire en quels termes le monsieur Guillotin en question, en octobre 1789, oui, avait annoncé son invention. « Messieurs, avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et sans que vous éprouviez la moindre douleur. »
La moindre douleur, n'est-ce
pas ? Est-ce que c'est vrai qu'il l'avait montré à Louis XVI ?
Oh non, ça c'est une légende, comme l'histoire que Louis XVI aurait dessiné le couperet en biais.
Vous n'avez pas jusque-là.
Non, mais c'est la même légende. J'en ai fait justice car j'ai retrouvé les lettres du docteur Louis, qui est le véritable auteur de la machine. Ça n'est ni Guillotin et encore moins Louis XVI.
Donc on a failli avoir la Louisiane.
On l'avait appelé la petite Louison ou la Louisette.
Charmant.
Mais c'est la guillotine qui l'a emporté, au grand désespoir du brave Guillotin d'ailleurs, qui était un philanthrope. Et c'est pour ça qu'il avait proposé un instrument égalitaire. Jusqu'ici, la décapitation était réservée aux nobles, et humanitaire. Mais je voudrais dire que récemment, aux États-Unis, vous n'ignorez pas qu'il y a un grand nombre de modes d'exécution selon les États, il y a plusieurs États où on exécute par la chambre à gaz. Et un sénateur américain, plein de bonne volonté et de sentiments humanitaires, a proposé que pour que ce soit plus agréable pour le condamné, les gaz soient parfumés. Les gens ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le mode d'exécution qui est infâme, c'est le fait de tuer quelqu'un. Et quel que soit le mode, vous avez raison. Mais en même temps, Philippe Boucher, vous avez raison aussi. Puisque c'est dégoûtant, autant qu'on le dise aux gens qui sont pour. Et s'ils aiment ça encore, eh bien ma foi, tant pis pour eux. Voulez-vous.
Elle est en haut, s'ennuie le dimanche, quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable,
du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de coup. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Qui nous dira à quoi ça pense, un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Qui nous dira à quoi ça rêve, un taureau dont l'œil se lève et qui découvre les cornes des cocus. Olé ! Les taureaux s'ennuie le dimanche quand il s'agit de souffrir pour nous. Mais voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros, la foule est à genoux. Et c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour la Carmencita. Prennent pour Wellington. Ah, est-ce qu'en tombant à terre, les taureaux rêvent d'un enfer où brûleraient hommes et toreros défunts? Rien à l'heure du trépas ne nous pardonnerait-il pas en pensant à Carthage, Waterloo et Verdun, Verdun.
Poursuivant inlassablement et patiemment sa campagne abolitionniste, Amnesty International vient de publier son rapport sur la peine de mort. La peine de mort par continent, la peine de mort par pays, une lecture édifiante, une lecture terrifiante. Ce n'est pas un réquisitoire, des faits, des chiffres alignés sur plus de 300 pages. Jacqueline Julien, déléguée d'Amnesty International.
La démarche d'Amnesty est une démarche un peu pragmatique. C'est-à-dire que c'est le fruit d'une expérience qui nous a rendus abolitionnistes. On s'est aperçu que, en fait, la peine de mort, c'était l'ultime torture. En plus, si vous voulez, la démarche d'Amnesty qui est internationaliste, et ça c'est extrêmement important, si vous voulez, est aussi fondamentalement découle de notre action auprès du prisonnier d'opinion. Bon, si on prend par exemple le cas de la France. En France, en l'état actuel des choses, on condamne à mort, mais on ne condamne pas à mort politiquement dans le sens du prisonnier d'opinion. Mais toute la législation française, la constitution française, a servi et sert encore de point de repère dans le monde. Il y a beaucoup de pays, d'États qui s'en sont inspirés et qui disent, eh bien, la France n'est pas abolitionniste, or c'est le pays des droits humains, c'est le pays de la liberté. Pourquoi nous serions-nous plus abolitionnistes qu'elle, alors qu'elle-même ne l'est pas? Donc si vous voulez, on parle très souvent dans la peine de mort d'exemplarité de la peine. Moi, je dirais d'exemplarité de la conduite d'un État par rapport aux autres États. Ça me paraît très important.
Autre opinion, celle du syndicat de la magistrature, Michel Marcuse, secrétaire général du syndicat de la magistrature.
C'est l'affaire Patrick Henry qui s'est déroulée en 1976. La suite de cette affaire, au cours de notre congrès qui réunissait 400 magistrats représentant à peu près 1000 magistrats, nous avons voté une motion demandant l'abolition de la peine de mort. Alors pourquoi? Pourquoi en 76? Parce que il nous semblait absolument scandaleux l'utilisation qui était faite d'un crime odieux, mais qui était faite par le pouvoir politique pour rassurer l'opinion publique, et il nous semblait que l'atmosphère devenait extrêmement malsaine dans cette opinion publique, et qu'il était nécessaire, finalement, que l'arme que devenait la peine de mort entre les mains du politique, mais que cette arme disparaisse. C'est la principale raison qui a fait qu'on a voté l'abolition de la peine de mort.
Une autre opinion, celle de Pierre Basse, qui dirige en tant qu'homme politique député RPR, président du comité d'études parlementaires pour l'abolition de la peine de mort, il vient juste, dans le cadre de son action militante, de sortir un livre qui s'intitule « Par ordre du sultan, une tête ». Il s'interroge sur les effets politiques actuels de son entreprise militante pour l'abolition de la peine de mort.
Le ministre de la Justice, comme d'ailleurs des autorités plus hautes, est un abolitionniste, et depuis bien plus longtemps que moi, quand il était le jeune et très brillant élève de normale supérieure qu'il a été, eh bien déjà l'imperfide était abolitionniste, alors que moi j'étais encombré des règles de Richelieu et de quelques autres qui faisaient que j'étais pour des châtiments rapides et capitaux. Bien, mais notre évolution est inverse. Alors que je vais vers les positions qui, d'ailleurs, au cours des siècles, ont été défendues par Lamartine, par Victor Hugo, par Clémenceau, je vois le garde des Sceaux, partisan de l'abolition, en réalité au Parlement, s'opposer à ma proposition abolitionniste, qui aurait pu être votée l'année dernière très aisément, car elle avait été votée par 11 voix contre 2 à la Commission des lois, sur rapport du très remarquable député qu'est M. Philippe Séguin. Par conséquent, on pouvait penser que l'affaire allait être réglée. Elle n'en a rien été à cause de l'opposition du garde des Sceaux. Et à l'heure actuelle, M. Perfit vient d'annoncer qu'il va déposer un projet limitant la peine de mort. Il va supprimer 200 domaines dans lesquels on peut donner la peine de mort, et il n'en laissera que 4, 5 ou 6. Mais ces 4, 5 ou 6, ce sont justement les domaines où, ces 20 dernières années, il y a eu quelques condamnations à mort. Si bien qu'en réalité, son projet, ça vise à renforcer la peine de mort en disant aux jurés « D'accord, il y a 200 sujets qui ne méritent plus la mort, comme par exemple l'incendie des granges dans les campagnes ou des récoltes, mais pour tel sujet, vous appliquerez la mort. » Ce qui est en fait une façon indirecte d'essayer de renforcer la peine de mort. Évidemment, ça ne marchera pas. Pierre le Cruel, roi de Portugal, ayant fait déterrer la malheureuse Inès de Castries, obligeait ses courtisans à lui embrasser la main. Ça provoquait simplement l'évanouissement des 10 courtisans, mais ça ne ressuscitait pas Inès de Castries. On ne ressuscitera pas la peine de mort en France. Elle est condamnée, elle est mourante.
Philippe Boucher, que pensez-vous de ces déclarations officielles, donc, d'un député, d'un homme politique, Pierre Basse, qui ne cesse de se battre pour l'abolition de la peine de mort? Et que pensez-vous de ces déclarations, à la suite notamment, évidemment, de ce débat qui a eu lieu sur la peine de mort au mois de juin 1979? À quand le prochain débat?
Je suis un peu... À quand le prochain débat? Moi, j'ai jamais fait de prophétie et j'ai pas l'intention de commencer, surtout pas là-dessus. Mais je suis un peu étonné que cette majorité ne soit pas en mesure d'arriver à ses fins. En ce sens qu'il y a un peu comme pour l'avortement, que bien souvent on rapproche pour les opposer, le cas échéant. Je suis un peu étonné qu'alors qu'il y a une majorité, semble-t-il, à l'Assemblée nationale, et mon ami Bertrand Legendre l'avait absolument démontré dans Le Monde en faisant un décomptage extrêmement méticuleux, cette majorité existe, on ne peut pas le contester, le Parlement n'a pas été en mesure de faire venir le débat. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas un problème de peine de mort, pardonnez-moi, c'est un problème de pouvoir du Parlement par rapport à l'exécutif qui n'en veut pas. Bon, alors l'exécutif en l'espèce, c'est le ministre de la Justice. Aussi quand M. Basse dit, le ministre de la Justice, qui je crois s'appelle Alain Perfit, est abolitionniste, c'est une plaisanterie.
Il a pourtant fait des déclarations dans ce sens.
Sans doute, ça intéressera certainement énormément Christian Ranucci, qui a été guillotiné il y a 3 ans, que M. Perfit fasse des déclarations hostiles à la peine de mort. Je pense qu'on a le droit d'être favorable à la peine de mort. On n'a pas le droit moralement, de se dire hostile à la peine de mort et de faire en sorte qu'elle soit maintenue. J'ai plus de respect pour quelqu'un qui est partisan de la peine de mort que pour quelqu'un qui feint d'être contre elle et qui fait tout pour la maintenir.
Alors, nous avons une opinion publique qui manifestement oscille selon les événements.
Non.
Pardon ?
Non. Il ne faut pas confondre les référendums de Café du Commerce, je n'aime pas les sondages, et les situations réelles. Assurément, dans les référendums de Café du Commerce, on est pour. Pour la peine de mort.
Ça recule pourtant.
Bon, ça recule, peu importe.
Ça aussi.
Moi,
je ne tiens
pour vrai qu'un seul référendum, celui où les Français, ayant en main le code, ayant en main le droit de l'appliquer, avec toute sa sévérité, prononce ou ne prononce pas la peine de mort. Or, vous avez cité des chiffres tout à l'heure, 68-77, 2000 cas où on pouvait craindre ou espérer, selon la position qu'on a, la peine de mort, je dis bien 2000 cas, et les jurys souverains la prononcent 38 fois. Alors, je suis désolé, le référendum, il est là, et il n'est pas ailleurs. Et c'est ce que j'appelle une écrasante majorité contre la peine de mort. Les sondages ne m'intéressent pas.
Thierry Lévy, à l'occasion de votre défense de Claude Buffet, vous avez rencontré Georges Pompidou, qui lui aussi avait fait beaucoup de déclarations à l'époque contre la peine de mort. Pensez-vous que la peine de mort soit une affaire politique et qu'avez-vous retenu de votre entretien avec Georges Pompidou à l'époque ?
Oui, ça, des déclarations, il en avait fait, il en avait même trop fait, puisque... Il s'était affirmé comme un adversaire de principe de la peine de mort et quand il s'est trouvé placé en face d'une situation critique, il a fait un choix qui n'était pas conforme à ses engagements personnels, mais qui était un choix politique dans une acception assez médiocre du terme, puisqu'il avait cédé à des pressions qui s'étaient exercées de la manière la plus ouverte, la plus évidente. Et qui était celle notamment des syndicats pénitentiaires, des syndicats des gardiens de prison. Alors je crois que le grand danger pour les hommes politiques dans ce domaine, c'est d'exprimer des idées. Effectivement, Philippe Boucher a raison de souligner qu'Alain Perfit en exprime beaucoup trop, et que la réalité lui donne tort. La vérité actuellement, c'est que la peine de mort est dans les textes et qu'elle est prête à fonctionner si l'opinion publique, savamment échauffée par une certaine presse, l'exige dans une circonstance particulière. Voilà la réalité du moment à laquelle les charmants humanistes qui ont la responsabilité des affaires nous convient à assister.
Philippe Boucher.
C'est pas Thierry Lévy que je rappellerai le sondage qui a été publié dans un journal du soir qui n'est pas Le Monde, trois jours avant l'exécution de Claude Buffet et de Roger Bontemps, qui avait donc s'était rendu responsable de la mort d'un surveillant de prison et d'une infirmière. Trois jours avant, comme par hasard, un journal a publié un sondage donnant une majorité écrasante de Français pour la peine de mort.
Oui.
C'est ce que j'appelle une manip.
Ceci dit, j'ai effectivement regardé les journaux ces dernières années en ce qui concerne les chiffres donnés sur l'opinion publique pour la peine de mort. Et c'est tout à fait étonnant de voir qu'exactement au même moment, au même mois, le même jour, selon les journaux, le chiffre varie. Donc effectivement, on ne peut pas tenir compte de cette fameuse dite opinion publique. Vous êtes bien d'accord ?
D'abord, il n'y a pas une opinion publique. Le jour où j'ai écrit « l'opinion publique estime que je suis un menteur », on a chacun l'opinion publique qui nous arrange. Il y a des opinions publiques à un moment donné et des opinions publiques successivement. Si nous, personnellement, sur des sujets futiles cruciaux, nous changeons d'avis, à plus forte raison, l'opinion publique. Il n'y a que des opinions publiques.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la faute photo est bonne. Il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
La peine de mort, c'est aussi un que sais-je qui vient de sortir. Un avocat, Marcel Normand, tente d'en retracer l'historique, la géographie et les effets de cette peine de mort avant, mais aussi maintenant. Il ne cache pas d'ailleurs qu'il est pour le maintien de la peine de mort.
L'on a souvent l'habitude de dire qu'au fond, la criminalité pourra un jour relever de la médecine plutôt que de la justice. Si l'on voulait demander à des chirurgiens ou à des médecins, ils pourraient parfaitement rendre le plus odieux des criminels l'homme le plus doux et le plus paisible. Prenons un exemple, prenons celui dont on a beaucoup parlé dans ces derniers temps, Mesrine. Mais avec certaines drogues ou avec certaines opérations, on pourrait en faire un être quasiment apathique. Seulement, il n'est pas question une seconde, lorsqu'on parle de médecine, de transformer la nature ou la personnalité des assassins. Il faut qu'ils demeurent tels qu'ils sont, et d'ailleurs pas un médecin n'accepterait de pratiquer des opérations ou des traitements de cette nature. Il faut qu'ils demeurent ce qu'ils sont, et que ce soit uniquement par une rééducation que l'on arrive à les soigner. Alors je vous dis tout de suite que malheureusement, l'expérience enseigne qu'il y a certains êtres qui ont le crime dans leur nature. C'est un élément de la nature sur lequel on peut discuter autant que l'on veut, mais c'est un fait matériel qu'il y a un certain nombre de récidives qui se produisent, quoi que l'on fasse.
Jacques Léauté, criminologue, professeur de droit pénal, réfléchit, lui, sur des chiffres, des statistiques et sur son expérience aussi. Voici quelques conclusions auxquelles il a abouti.
J'ai du mal à comprendre pourquoi la France a besoin d'une mesure qui n'est pas nécessaire aux autres. Est-ce que notre criminalité est plus forte? Quand je regarde les statistiques, pas du tout. Est-ce que notre criminalité est vraiment plus basse grâce à la peine de mort? Alors je pourrais me dire, c'est à cause d'elle que nous avons une criminalité plus basse. Mais non, quand on regarde les taux de crimes passibles de peine de mort, pour, par exemple, 100 000 habitants en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Espagne, quand on regarde autour de nous, il n'y a pas de différence significative entre les uns et les autres. Ce qui est beaucoup plus frappant, c'est au contraire la constance très grande, à quelques virgules près, du nombre des meurtres qui se commettent par 100 000 habitants dans chaque pays. Alors, je ne comprends pas bien ça. Je me rappelle d'ailleurs que Durkheim avait dit que les taux de suicide, c'était une des caractéristiques nationales. bien, j'ai bien l'impression que les taux de meurtre, c'est à peu près une caractéristique de cet ordre, et qu'ils sont relativement constants, parce que, en fait, ils ne sont pas solidaires de la peine de mort. Les causes qui provoquent les grands crimes de cet ordre, ce sont des causes qui procèdent de l'ordre général, et s'il y en a autant chaque année à peu près, c'est parce que les mécanismes qui les provoquent continuent à fonctionner de la même manière d'une année sur l'autre. Et peut-être que la proportion de gens qui sont portés à commettre des meurtres, par exemple, est à peu près la même génétiquement, de génération en génération.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute que la grosse majorité du public est absolument opposée à l'abolition de la peine de mort. C'est un sentiment qui est très grave, parce qu'il faut donner aux gens le sentiment qu'on les défend. Et à partir du moment où on supprime ce châtiment suprême du crime, on donne le sentiment qu'après tout, le crime, c'est pas si grave que ça. Que, bon, bah oui, on a tort de tuer, mais que, bon, bah, il faut comprendre que ça puisse se faire dans des circonstances qui. Et à partir de ce moment-là, dans le public, le sentiment de ce qu'est la criminalité s'atténue, arrive, si vous voulez, à devenir comme un sentiment plus ou moins diffus, et le principe de moralité qui disparaît. Et ce qui est très grave, c'est que les gens ayant le sentiment de ne plus être défendus, eh bien on voit cette multiplication qu'on ne connaissait pas auparavant d'actes dits d'autodéfense, dont certains sont parfaitement légitime et dont certains, il faut bien le dire, sont quelque peu, disons, inconsidérés.
François Romériot, ancien magistrat pénaliste pendant plus de 40 ans, est président de Légitime Défense.
Nous estimons à Légitime Défense que c'est exactement le contraire. Parce que un crime est une chose infiniment plus atroce qu'une exécution capitale. J'ai assisté, pour ainsi dire, aux deux. J'ai vu au début de ma carrière un crime qui venait de se commettre parce qu'il a été commis près de chez moi et j'ai été appelé tout de suite. Et d'autre part, j'ai assisté à 3 exécutions capitales. Eh bien, je dois dire que les exécutions capitales sont infiniment moins traumatisantes et moins cruelles que le crime. De plus, elles s'appliquent à des gens qui ont fait le mal alors que le crime touche des innocents. Par conséquent, il est plus humain d'être pour la peine de mort qui épargne un certain nombre de crimes que pour l'abolition qui favorise au contraire les assassins. Puisque de toute façon, il y a un risque de faire couler inutilement le sang, nous préférons que ce soit celui des assassins plutôt que celui des honnêtes gens. Et là, l'argument est imparable.
Les bons jurés qui s'accommodent des règles prévues par le code ne pourront jamais t'écouter, pas même un Christ à tes côtés. Les philosophes, les imbéciles, parce que ton père était débile, te pardonneront, mais pas moi. J'aurai ta tête en haut d'un mât. Tu as tué l'enfant d'un amour. Je veux ta mort. Je suis pour.
Autre argumentation, celle d'un assassin, Claude Charme.
Moi, c'était extrêmement simple. J'étais un petit voleur. Je faisais réellement du porte-à-porte. Et un jour, je suis allé cambrioler chez une dame. Je savais qu'elle devait aller voir sa fille à 200 km de là. J'avais de fausses clés. J'ai attendu qu'elle sorte. Je l'ai vue sortir. Je l'ai vue se diriger vers la station d'autobus. Je suis monté chez elle. En 5 minutes, j'ai trouvé l'argent. Et au moment de ressortir, elle rentre. Qu'est-ce qu'elle avait oublié ? Ben, nul ne le saura jamais, car elle ouvre la bouche pour crier, je l'ai frappé de la main, mais de la main nue, sur la nuque, je l'ai tiré à l'intérieur, et le lendemain, j'apprenais par les journaux que j'étais un assassin, car elle était morte. Petit voleur, j'étais aussi petit assassin, finalement, puisque 3 jours après, j'étais arrêté, et j'ai nié. Bon, j'ai nié d'abord parce qu'on a besoin de nier. C'est pas drôle d'avoir tué quelqu'un. J'ai nié ensuite parce que tous les témoignages m'étaient favorables, presque. Mais que l'enquête a fait qu'on a écarté tout ce qui était favorable à moi pour ne retenir que ce qui était défavorable. Et en cour d'assises, eh bien, genre, j'ai crâné, parce que j'avais mes copains dans la salle. Et pire, mes copines, avec qui on dansait 40 heures par semaine, que je traitais à ma table, etc. Donc, il n'est pas question, d'abord que j'avoue, je ne veux pas paraître assassin, même pas à mes yeux, ni aux leurs. Je ne veux pas paraître un mouton non plus en disant « Oui, monsieur le Président, je ne l'ai pas fait exprès, je n'étais qu'un petit voleur. » Ce qui m'aurait sauvé la tête, car un Nancy n'a jamais eu la réputation d'une cour d'assises sanguinaire. Je crânais, j'ai fait des mots d'esprit, je me suis engueulé avec le président, le procureur, j'ai indisposé tout le monde et je me suis retrouvé condamné à mort. Alors, ma réaction, eh bien, c'est la colère. C'est vraiment la colère du rat qui se trouve piégé d'un seul coup, qui a voulu bouffer du grain, et puis qui se retrouve dans la cage. La colère et en même temps le mépris, car j'avais confiance dans la justice, moi. Or, tout était pour moi, et pourtant j'ai été condamné à mort. Donc je l'ai ressenti comme une profonde injustice, bien que cela ne soit pas une erreur judiciaire. C'est heureux, quand même. Ensuite, j'ai été rassemblé condamné à mort et j'ai attendu 6 mois. 6 mois, bon, bah, tous les matins, on pouvait me réveiller.
Alors comment ça se passe quand on sait que tous les matins on peut être...
Eh bien pour moi ça se passait, j'allais dire normalement, oui il faut le dire, je dormais, je mangeais.
Et quel est le traitement d'un condamné à mort? Quel a été votre traitement donc pendant 6 mois? Ils sont donc isolés à l'intérieur de la prison?
Tout à fait isolés, avec un gardien jour et nuit, de l'autre côté de la grille, donc interdiction de mettre les mains sous les draps, de peur qu'on se tranche les veines, car on doit être... exécuter, on n'a pas le droit de s'exécuter soi-même. J'ai été condamné à mort à une époque où nous n'avions plus les entraves. Quelques mois plus tôt, j'aurais eu les chaînes aux pieds et les chaînes aux mains. Ce n'était plus le cas. Le régime est le régime de tout le monde, ça c'est la légende qui prétend qu'on a un régime amélioré, etc. Non, ça dépend du chef d'établissement. Lorsque vous êtes dans une petite maison d'arrêt comme moi, eh bien, le chef d'établissement... par humanité, et puis par souci aussi de sécurité, n'a pas envie d'enquiquiner un homme qui est dangereux par essence, puisqu'il n'a plus rien à perdre. Bon, ben, il améliore le régime. En fait, nous pouvons avoir, disons, du rab, mais il n'y a pas de plat particulier, ça, c'est la légende.
Et les rapports avec les gardiens, comment se passait-il ?
Sont les rapports extrêmement curieux, rapport avec gardiens, rapport avec détenus, d'ailleurs, quoi. Ce sont les rapports entre des hommes normaux et un individu, je dirais, hors du monde, hors du commun. C'est plus que des rapports entre, je dirais, des fans et leur vedette préférée. Le condamné à mort, c'est quelqu'un qui est sorti du monde normal. D'abord parce qu'il a assassiné. Et heureusement, il y en a quand même très peu qui assassinent. Ensuite, il y en a très peu qui sont condamnés à mort. Donc, c'est la peine supérieure, irrémédiable. Et il y a toute une aura magique, sacré même, car il y a un caractère sacré du condamné à mort, et cela joue. Une anecdote, entre autres. Des gardiens, pendant le Tour de France, donc, m'avaient prêté un transistor. Et il y avait à l'époque les Félagas qui étaient en prison, et les Félagas n'avaient pas le droit encore à des transistors. Les Félagas ont protesté, comment on entend la radio dans une cellule? Le surveillant-chef a voulu me l'enlever. Alors moi j'ai gueulé par la fenêtre, quoi. J'ai appelé le chef de la Vilaya, et je lui ai dit, mais enfin je suis condamné à mort. Eh bien ces gars se sont mis en grève pour qu'on me redonne le transistor. Car c'est LE condamné à mort. Il y a une auréole tout à fait particulière, à la fois morbide et sacrée, c'est l'être à part.
Et est-ce que de temps en temps, vous repensez à ces 6 mois pendant lesquels vous étiez condamné à mort? Est-ce que par l'intermédiaire de rêves ou par moments ça vous revient cette période-là, maintenant?
Non, absolument pas. Non, ce à quoi je repense souvent, pas en rêve, mais en réalité, lorsque je suis dans ma voiture, lorsque j'en parle, lorsque je réfléchis, eh bien, ce sont les phénomènes qui m'ont amené à tuer un être humain. Car ça... ben, ça ne s'effacera jamais. Je peux réparer un vol, je peux me faire pardonner d'avoir frappé quelqu'un, l'avoir blessé. Mais même si les parents de ma victime m'ont pardonné, je n'en sais rien. Mais ma victime, elle, est morte. Et ça ne se répare pas. Et ça, bon, ben, même si je suis égoïste, égocentrique, si j'ai tous les défauts et toutes les qualités du monde, eh bien je regrette, mais ça pèse. On ne peut pas l'effacer, ça n'existe pas. Vous savez, j'allais dire, c'est comme être putain ou ministre, quand on est assassin, on l'est pour le restant de ses jours.
Et est-ce qu'il y a des gens qui vous injurient encore maintenant, vous traitant d'assassin?
Non, non, personne ne l'a jamais fait. Et moins maintenant qu'avant, pour plusieurs raisons. D'abord, je fais 1m85 et 85 kilos. Et en France, à partir d'1m80, en général, on vous dit monsieur. Ensuite, parce que nous vivons dans un pays où on a le culte de la diplomite. Et comme je suis docteur en droit, maître en sociologie, licencié en psychologie, criminologue, etc., bon, bah, je suis la grosse tête. Mais par contre, c'est à ma femme qu'on s'en prend. Car ma femme, c'est la salope qui a épousé l'assassin.
Qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous avez su que votre condamnation à mort était commuée en peine à perpétuité?
J'allais dire déçu. Non, pas de vivre. Non, quand mon avocat est venu me dire ça, j'ai dit « Ah merde ». Je m'explique. Pendant ces 6 mois, bon, j'ai réfléchi au problème, bien entendu. Et à un moment, je me suis dit « Mais écoute, tu n'es pas normal de ne pas avoir peur. » Car moi aussi, je croyais au roman, hein, à l'histoire de ces gens qui passent leur nuit à genoux, qui attendent 5h du matin avant de s'endormir, etc. Je me suis dit « Mon pauvre Claude, t'es pas normal. » Et je m'étais dit « Mais quelle attitude auras-tu devant la guillotine ?» Et ce merde exprime cela, c'est que je ne saurais pas, et je ne saurais jamais, comment je me serais tenu devant la guillotine. Moi, je crois que j'aurais été intact. Mais je n'en sais rien. Peut-être serais-je tombé dans les pommes, peut-être aurais-je crié, peut-être me serais-je écroulé complètement, je n'en sais rien. Ensuite, il y a eu un soulagement. Et en même temps, une certaine horreur. Car ce n'était plus l'horreur de la peine de mort. La peine de mort est une chose réelle, tangible, bon, on va me couper la tête et puis c'est fini, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Et d'un seul coup, eh bien, j'avais perpétuité. J'étais commué. C'est-à-dire, cette chose stupide, l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Je sais très bien que ça peut faire 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais je n'en sais rien. Cela dépend en grande partie de mes gardiens, du directeur, de l'humeur du moment, de la politique du moment. Alors il y a un moment assez angoissant. Dans le fond, c'est un tunnel qui n'a pas d'ouverture. C'est un sas, c'est une impasse, on ne sait pas. Et puis ma foi, je me suis installé dans la prison. J'ai essayé de m'évader pendant 2-3 ans, voyant que je ne le pouvais pas car j'étais un mauvais évadé. Je me faisais prendre à chaque fois. Alors je me suis mis à faire des études.
C'était les impressions de Claude Charme, ancien condamné à mort. Voici maintenant l'opinion de Jacques Léauté, criminologue.
Ce que je veux dire surtout, c'est que le système de la peine de mort en France n'est pas du tout fait pour éliminer les gens les plus dangereux. Parce que la peine de mort est prévue uniquement dans des cas très particuliers. Par exemple, le parricide risque la peine de mort, alors qu'un meurtre simple, un meurtre dont on ne prouve pas qu'il a été prémédité, ça n'est pas en France la peine de mort. La peine normale pour le meurtre, c'est la prison à vie. Mais supposez le parricide. Alors, le parricide, lui, parce qu'il s'est permis de porter la main contre son père, risque la peine de mort. Mais croyez-vous qu'un parricide soit plus dangereux qu'un meurtrier ordinaire? Comment voulez-vous qu'il tue une deuxième fois son père s'il l'a tué la première? Et de toute façon, à supposer qu'il ait tué son père, ce n'est pas dans sa nature, ce n'est pas dans sa criminologie de recommencer à tuer quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas. Et ça ne s'est presque jamais vu. Donc, la peine de mort pour le parricide, c'est pas du tout l'élimination du plus dangereux. Prenez un deuxième cas de peine de mort, c'est l'empoisonnement. Écoutez, croyez-vous que nécessairement, quelqu'un qui tue par empoisonnement soit plus dangereux que quelqu'un qui tue par noyade? Et pourtant, si j'immerge volontairement une personne sans préméditer, je ne risque pas la peine de mort. Mais si, en n'ayant pas prémédité, et sur le moment, je lui fais avaler un poison, je la risque. C'est absurde. Autrement dit, ce que j'essaye de montrer, c'est que la loi française n'est pas faite pour des cas les plus dangereux. La loi est faite pour punir ce qui paraît le plus fautif, ce qui est le péché capital, ce qui est le cas où on peut dire que l'expiation de la faute commise doit être la plus grande parce que la faute est jugée la plus forte. Et par exemple, le cas de la préméditation, qui est le cas le plus fréquent d'application de la peine de mort. Suppose qu'on démontre que la personne a commencé à préparer tout d'avance. Mais croyez-vous que les assassins les plus malins, ceux qui sont les plus dangereux parce qu'ils préméditent tout avec une perversité diabolique, croyez-vous qu'ils soient assez bêtes pour laisser des traces à l'avance? Ceux-là, comme le doute profite à l'accusé, vous ne les verrez jamais condamnés à mort. Vous ne condamnez à mort que les assassins assez négligents, assez bêtes, assez mal organisés pour avoir laissé la preuve qu'ils avaient préparé la chose d'avance et que ça n'a pas été une impulsion du moment.
Antoine Lazarus, médecin des prisons, s'est interrogé sur ce qu'on nomme maintenant les peines de substitution, sur leur signification pratique, médicale et sur leurs éventuelles conséquences morales.
Le mot substitution veut dire mettre quelque chose à la place d'autre chose dans un contexte qui est, à la place de la peine de mort, mettre une peine qui ne tue pas physiquement, mais qui fasse le même effet que la peine de mort. Quand on parle de peine de substitution, à ce moment-là, on voit un certain nombre de juristes, de criminologues tout à fait éminents, même de bonnes âmes, dire, au fond, le seul problème, c'est que les gens soient tués physiquement. Du moment qu'ils ne sont pas tués physiquement, on peut tout faire. Alors, première observation, qu'est-ce que pensent les détenus de ça? Les détenus qu'on peut rencontrer, moi j'en ai rencontré même un bon nombre, que ce soit condamné à des courtes peines, ou de temps en temps à des longues peines, les détenus disent « je préfère être condamné à mort plutôt que passer ma vie en prison ». Si on enferme un détenu sans qu'il ait aucun espoir, d'aucune sorte, il n'a rien à perdre quoi qu'il fasse. C'est-à-dire que sa dangerosité est totale, qu'il tue soit d'autres détenus, qu'il se tue lui-même ou qu'il tue les surveillants, il est dans une espèce d'état qui n'est plus un état humain, qui est un état de, où les valeurs de référence, même les valeurs qui font que s'il y a un risque à telle action, ça ne vaut pas la peine de la faire ou ça vaut la peine de la faire, il est en dehors de tout système d'évaluation tel que nous on l'imagine, c'est-à-dire que sa vie n'a plus de valeur. Quoi qu'il fasse, il ne subira rien d'autre que ce qui est déjà en train d'être subi. C'est la manière dont on décrit l'enfer existentialiste, d'une certaine manière. On est bloqué quelque part, rien n'existe plus quoi qu'on fasse. On ne peut plus modifier un destin en train. Et c'est un état de dangerosité totale que les surveillants, même s'ils ne formulent pas très, très bien, ont tout à fait repéré en disant que eux ne savent pas comment ils prendraient en charge, et ne veulent pas prendre en charge des personnes sans espoir du tout. C'est une démarche de mise à mort sociale, une démarche sans aucun espoir de réinsertion, et une démarche qui représente presque une régression par rapport à la situation actuelle, puisque ceux qui seront condamnés à des peines de substitution à la peine de mort et qui les exécuteront, vu les propositions actuelles du gouvernement, seront beaucoup plus nombreux que ceux qui actuellement subissent la peine de mort. En termes criminologiques, ce qu'on sait de quelques experts qui ont pu travailler là-dessus en Allemagne de l'Ouest, qui pourtant n'est pas tendre avec ses détenus, en tout cas politique. Ce qu'on sait, c'est qu'il semble qu'après 14 ans, là c'est des chiffres de moyenne, mais après 14 ou 15 ans de prison, il n'y a pratiquement aucun espoir de réinsertion des gens tellement ils sont esquintés par la prison. Donc, proposer 25 ans veut dire que d'entrée de jeu, on assume de fabriquer des gens qui sortiront comme handicapés sociaux définitifs et qu'il faudra vraisemblablement assurer avec des systèmes équivalents à des rentes d'invalidité pour infirmes du travail, quoi. Ou pour infirmes de la société.
Voici maintenant l'opinion d'Hubert Bonaldi, représentant Force ouvrière du personnel pénitentiaire.
Alors la Fédération Justice Force ouvrière, qui représente une très large majorité des personnels pénitentiaires, a fait connaître sa position sur le maintien ou la suppression de la peine de mort de la façon suivante. Les personnels pénitentiaires estiment que pour tout crime commis en détention à l'encontre des personnels pénitentiaires doit être ou doit pouvoir être sanctionné de la sanction de la peine capitale. À ce titre-là, ils réclament dans l'arsenal des sanctions le maintien de la peine de mort. Et dans ce cas précis. Pour ce qui concerne les crimes pour lesquels la peine capitale peut ou doit être maintenue, En tant qu'organisation syndicale, la fédération ne recommande à ses adhérents aucune position. En effet, le service public des prisons exécutera la loi dans tout ce qu'elle comporte au niveau de l'échelle des sanctions pénales. Mais Force ouvrière rappelle cependant que les conséquences des peines dites substitutives, c'est-à-dire celles de très longues détentions ou des peines incompressibles, auront nécessairement des conséquences sur les moyens de faire face à leur exécution. Alors nous pensons qu'il est grave d'envisager une législation nouvelle sans prévoir de façon très précise, très exacte, les répercussions au niveau des moyens. Et à ce titre, la Fédération Justice demande à ce que, avant l'élaboration même des textes législatifs en la matière, l'avis des professionnels soit très largement entendu. Telle est la position de la Fédération Justice Force Ouvrière, dont je répète qu'elle couvre largement le secteur des prisons et des personnels servant cette institution.
Alors Thierry Lévy, cette histoire de peine de remplacement, de peine de substitution, on peut l'appeler comme on voudra, est une histoire qui a commencé en 1977 et curieusement c'est Maître Lombard qui l'avait avancée. Que pensez-vous de ces histoires de peine de remplacement en tant qu'avocat et vous occupez-vous de détenus qui subissent en ce moment ces peines de remplacement, car elles existent. Elles existent depuis maintenant, je crois, Philippe Boucher, vous n'allez pas me contredire, depuis maintenant 2 ou 3 ans.
Dit en ces termes, je ne vous contredirai pas.
Non, elles existent depuis quand, ces peines de remplacement?
Je crois que c'est 75.
75.
Non, mais elles n'existent pas, pour en parler, on ne peut pas dire ça. Ce qui existe, c'est que les conditions de libération conditionnelles ont été changées en fonction de la durée de la peine. La peine de remplacement, pour en parler, n'existe pas. C'est la proposition qui a été faite, en effet, par Lombard et reprise par Perfit et par d'autres, et qui est, à mes yeux, ce qu'il y a de plus abject dans le débat actuel. Si c'est le prix qu'il faut payer pour abolir la peine de mort, je suis partisan de maintenir la peine de mort, car une peine de 25 ans, ou de 20 ans, même de réclusion criminelle, sans possibilité de grâce, de libération anticipée, de permission de sortir, est une peine qui, d'une part, ne pourrait pas être appliquée, car ni les gardiens ni les détenus n'en veulent, en dehors de forts de détention qui recréeraient les métropoles pénitentiaires dans les îles de jadis. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a été amené à s'interroger sur les conditions dans lesquelles on pourrait faire revivre ces lieux diaboliques. C'est ce que disait Lazarus à l'instant, qui est juste, c'est qu'un homme au-delà d'une certaine, je ne sais pas si on peut dire 15 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe, il est vrai qu'au-delà d'une certaine durée, Perfit lui-même l'admet dans certaines déclarations, la plupart des magistrats le reconnaissent, souvent avec un certain cynisme, il justifie une condamnation à perpétuité en sachant que c'est une condamnation qui finalement se traduira par une durée de 20, 18 ou 22 ans, en disant au bout de 20 ans, un homme, quel qu'il soit, est éteint. Par comparaison, on peut tout de même se tourner vers certains pays proches de nous en Europe, et comme la Hollande, qui ne connaît pas dans la pratique de peine supérieure à 10 ans, qui n'en connaît pas.
Et ça va pas
Philippe Boucher.
Et je voudrais juste, si vous le permettez, revenir sur peine de substitution et peine de remplacement qu'il ne faut absolument pas confondre. Thierry Lévy a bien dit, la peine de remplacement, sous-entendu de remplacement à la peine de mort, pour l'instant n'existe pas. Bon. La peine de substitution, c'est substitution aux peines d'emprisonnement. C'est-à-dire que l'on prononce des sanctions pour éviter que les gens n'aillent en prison, ce qui signifie qu'on s'est quand même bien rendu compte que l'effet pratique de la prison était plus souvent mauvais que bon. C'est un discours officiel que celui qui dit la prison est corruptrice.
Ça, vous faites allusion au rapport de l'administration pénitentiaire.
Je fais allusion à toutes les déclarations officielles. Tous les ministres de la justice s'en sont rendus compte au bout de 3 mois de fonction. Tous les directeurs d'administration pénitentiaire vous le diront. Tous les surveillants, c'est une vérité officielle. La prison est corruptrice. Donc on a essayé, on a introduit dans la loi des peines de substitution. Alors je vais donner un exemple classique. Un type qui commet un très très grave accident de la circulation parce qu'il a conduit, disons, en état d'ivresse. Au lieu de le mettre en prison, Donc il va perdre son emploi, peut-être sa femme, etc. Le bénéfice social sera nul, c'est évident, sera une perte sociale. Un type qui perd son job, c'est une perte sociale en même temps, globalement. Eh bien, on va lui ôter son permis de conduire, ou pour un temps plus ou moins long, pas un an, deux ans, trois ans, etc. Quant à l'histoire de la peine de remplacement, je voudrais... Alors, naturellement, il est vrai que les vrais abolitionnistes exigeront le maintien de la peine de mort pour empêcher les peines de remplacement. Car on ne peut pas imaginer que la suppression de la peine de mort aboutisse à un renforcement d'un système répressif déjà très fort. Car il faut tuer ce canard selon lequel les magistrats seraient laxistes. C'est complètement faux. Le niveau général des peines a augmenté dans les 5 ou 6 dernières années. On va atteindre bientôt 40 000 personnes dans les prisons françaises, surpeuplement, etc. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter que les magistrats sont laxistes, que les gens qui disent ça, ils veulent bien aller se déplacer, consulter les rapports, ils verront ce qu'il en est de ce qu'ils soutiennent. Quant à cette peine incompressible, c'est le seul domaine dans lequel je rejoindrai Légitime Défense. On ne peut pas la décider. Car il y a un article 17 de la Constitution française qui dit « Le président de la République a le droit de faire grâce ». On ne peut pas, par le biais d'une peine de remplacement incompressible, c'est-à-dire une loi simple, priver le président de la République de son droit de grâce, qui est un privilège constitutionnel. Il faut résoudre ce problème-là. Et c'est en cela que, je dirais, même juridiquement, cette peine incompressible ne tient pas debout. Et je remercie l'Association Légitime Défense, qui en quelques années d'existence a enfin sorti une chose intelligente, d'avoir remarqué ce point-là, ce point de droit. Ce qui prouve que M. Romerio n'est pas absolument inutile.
Alors Thierry Lévy, dans vos livres, vous allez très loin, puisque vous dites que le débat sur la peine de mort est un faux débat, que cependant il reste quand même une clé de voûte du système pénal actuellement en France. Mais vous proposez, vous, une suppression des prisons.
Oui, enfin, ce que j'observe, c'est que la prison a été supprimée, en fait, dans un très grand nombre de situations, par rapport à ce que prévoyaient les textes et à la manière dont ils étaient appliqués il y a encore peu d'années. On doit rappeler que la prison, dans son principe, au moment où elle entre dans la loi, ne s'accompagne pas d'une possibilité de sursis. C'est-à-dire que tous ceux qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement pour une infraction quelconque exécutent leur peine sans possibilité de sursis. Ça n'est qu'à la fin du 19e siècle que le sursis apparaît. Depuis, et de manière accélérée dans les dernières années, bien la peine d'emprisonnement avec sursis, puis les peines de substitution dont on vient de parler, remplace la peine d'emprisonnement, si bien que pour la très grande majorité des infractions qui sont commises dans un pays comme la France, l'emprisonnement n'est pas appliqué. L'emprisonnement est donc réservé à une toute petite catégorie de population qu'on peut très très facilement identifier, dont on connaît les origines sociologiques, si bien qu'il y a une suppression de fait qui s'accompagne d'un maintien, mais ce maintien ne coïncide plutôt avec l'état juridique dans lequel nous vivons, les normes juridiques que nous appliquons, qui sont une espèce de survivance archaïque qui n'a d'utilité que pour maintenir à l'écart une catégorie de gens qu'on a apprécié comme dangereux dans un a priori politique inadmissible.
Jacques Delarue, votre livre est un livre militant contre la peine de mort, votre livre sur le métier de bourreau, et il se termine par une déclaration contre donc le maintien de la peine de mort, mais une déclaration un peu mitigée. Vous n'êtes pas d'accord avec Thierry Lévy?
Non, pas du tout, parce que ça n'est pas un a priori politique que de constater qu'il existe quelques milliers d'individus qui sont des criminels professionnels, aucun mauvais sort n'a jeté dès leur naissance dans le crime, mais qui au contraire l'ont délibérément choisi, tout simplement parce que ils veulent bien vivre et qu'ils ne veulent pas travailler. Il y a toute une série d'exemples de biographies très précises de gens nés dans des conditions tout à fait normales, ayant reçu une éducation tout à fait normale aussi, ayant appris un métier qui pouvait parfaitement leur permettre de vivre convenablement, honnêtement et même assez confortablement, et qui ont choisi d'exercer une autre profession, celle de criminel, de procéder, de livrer des agressions, de fabriquer de la fausse monnaie, enfin, etc., etc. À partir du moment où ces gens-là ont déjà épuisé les ressources qu'offrent toutes les lois sur le sursis, ont été condamnés un grand nombre de fois et recommencent sans arrêt, si on supprime la prison, je vous demande ce qu'on va en faire. Parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de se reclasser.
Alors,
ils refusent.
Attendez.
Thierry Lévy, Philippe Boucher, il nous reste 2 minutes.
Non, je voudrais juste faire observer ceci. c'est que Thierry Lévire disait, reparlait de la composition sociologique des prisons. Je crois que le meilleur moyen de diminuer la criminalité, il ne faut pas rêver, toutes les sociétés ont eu une délinquance, quelles que soient ces sociétés, absolument, il y en aura toujours. Il ne faut pas rêver. Le problème, c'est le niveau tolérable. Maintenant, je pense que quand on sait qu'il y a 80% d'OS et de fils d'OS dans les prisons, et 9% d'illettrés, c'est-à-dire trois fois plus qu'au moment du recensement du service national, on se dit que quand le niveau de vie monte, on commet moins de délits. Et la solution, elle est là.
Sûr.
Et puis, il y a un autre point que je voudrais faire observer, c'est que nous sommes à la fin du XXe siècle et qu'on a encore un système de sanctions qui est celui du début du XIXe. Et là, il y a un décalage de 3 siècles qu'il faudra examiner un jour ou l'autre et pas avec des bouts de ficelle comme on le fait actuellement.
Supprimer la peine de mort, ça veut dire qu'il faut repenser la totalité de notre
système
pénitentiaire.
Oui, mais c'est bien au-delà, la peine de mort, c'est une espèce de... On se focalise sur la peine de mort, c'est un système répressif.
C'est tout le système pénitentiaire qu'il faut repenser, mais on ne peut pas le supprimer.
Thierry Lévire, un dernier mot?
Non, le dernier mot a été dit par ce que nous venons d'entendre. L'homogénéité dont vous parlez concernant la criminalité est quelque chose qui n'existe pas. Vous dites qu'il y a des gens qui choisissent la profession de criminel. Mais non, ça n'existe pas.
Ce qui existe, des dizaines de cas.
Il y a des quantités de gens qui sont endurcis.
Jacques Delarue, le métier de bourreau chez Fayard, Thierry Lévy, l'animal judiciaire et le désir de punir chez Fayard, Philippe Boucher, le ghetto judiciaire chez Grasset, la peine de mort, Marcel Normand, presse universitaire de France, Amnesty International, rapport sur la peine de mort chez Mazarine, Martine de Dignon, Annie Lebeg, Mehdi Alhadj, Laure Adler, bonsoir.
C'était La peine de mort, une nuit magnétique proposée par Laure Adler, diffusée la première fois le 6 février 1980 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
It's almost like salvation. It's almost like the blues.
Vert bleu.